On va lire l'épître aux Éphésiens au chapitre 3. Donc vous avez vu, tout le culte, c'est Éphésien quand même. À part le petit passage des Proverbes, sinon ça n'était que des textes de l'épître aux Éphésiens. Éphésiens 3, versets 14 à 21. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Toute l'épître aux Éphésiens est construite autour d'un thème central qui est celui du dessein de Dieu, que Paul appelle d'ailleurs le mystère. Ce dessein de Dieu est un mystère, mais en tout cas, une chose est sûre, il est arrêté de toute éternité. Il ne varie pas au gré de l'évolution de la société ou des hommes. Ce dessein est arrêté de toute éternité, il est voilé durant les siècles, il est exécuté en Jésus-Christ, révélé à l'apôtre et déployé dans l'Église. Ce dessein comprend le plan de salut de Dieu pour les hommes, l'élargissement du peuple de Dieu aux nations, ainsi que le plan de réconciliation. Et on pourrait mettre trois petits points, parce qu'en fait, il y a encore d'autres choses là-dedans, hein, dans ce dessein de Dieu. L'Église, dans l'Épître aux Éphésiens, est célébrée comme une réalité universelle qui est à la fois terrestre et céleste. Et ça, c'est important aussi de s'en souvenir. On a parfois tendance à ramener l'Église à ce qu'on connaît, nous, quatre murs du dimanche matin, même si nous, on en a un peu plus, parce qu'on a deux lieux, hein, même trois aujourd'hui. Voilà, donc une réalité à la fois terrestre et céleste, mais aussi la réalisation actuelle de l'œuvre de Dieu. L'Église est finalement, quelque part dans cet épître aux Éphésiens, la réalisation actuelle de l'œuvre de Dieu, comment Dieu fait les choses. Et elle manifeste du coup la création nouvelle, même si ce n'est pas encore en perfection. Ce passage que nous avons lu d'Éphésiens 3, c'est une prière de Paul, hein, vous l'avez vu, je pense, à la lecture. Paul qui est alors prisonnier pour le Christ. Il expose dans la première partie du chapitre justement le mystère de la vocation des païens, et c'est la raison pour laquelle il rend gloire à Dieu et il adresse cette prière. C'est un texte assez intéressant parce que Paul s'adresse à la fois au Père, au Fils et à l'Esprit. Il finit sa prière avec cette notion de plénitude de Dieu. Voilà un des passages, hein, pour les catéchumènes notamment, mais pour nous tous qui sommes finalement des catéchumènes à l'école de Dieu, un des passages qui expose la Trinité d'une manière assez claire. Le thème central de ce passage, c'est donc l'amour du Christ pour nous, l'amour de Dieu pour les siens. Et Paul fait ressortir cette notion d'amour en la plaçant au cœur du texte et en l'encadrant par la gloire et la puissance de Dieu. Deux notions qui sont présentes au début et à la fin du passage. Je vous dis tout ça parce que je trouve que c'est très intéressant de voir chez Paul comment il construit ses textes, justement pour faire ressortir des choses. Une prière qui commence avec la notion de famille. Et c'est quand même un peu pour ça que je l'ai choisi, puisque ce week-end était sur le thème de la famille. Et la famille de Dieu, eh bien, c'est son peuple. C'est-à-dire en Jésus-Christ, les Juifs, puis les païens, et donc en définitive l'Église, avec un grand E, dans laquelle on est tous frères et sœurs. Nous sommes donc dans l'Église de la même famille, c'est une des images fortes utilisées pour parler de l'Église, puisque nous avons tous et toutes un seul Père, Dieu. C'est déjà ce qu'annonçait le prophète Malachie, hein. Au chapitre 2, il disait « N'avons-nous pas tous un seul Père, n'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés ?» Et l'idée de représenter Dieu comme Père fait parfois, même souvent, pourrait-on dire, l'objet d'un malentendu. Parce que souvent le raisonnement des personnes qui arrivent et qui s'approchent de Dieu font comme un blocage avec cette notion de paternité. Le raisonnement, en général, est le suivant, avec le Père que j'ai connu, comment puis-je recevoir Dieu comme Père ? Comment puis-je recevoir que Dieu est Père ? Je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on s'arrête et qu'on soit conscient, parce que, ben, voilà, notamment, ça permet des discussions au groupe d'hommes sur qu'est-ce que c'est être un Père selon le cœur de Dieu et d'autres choses, mais c'est intéressant de voir que c'est une des failles, finalement, un des sujets de blocage des gens qui arrivent à l'Évangile, pour peu qu'ils aient connu un Père qui n'était pas idéal. Pas tout le monde, mais quand même, il y en a certains. Et ce raisonnement-là, il prend comme point de départ les paternités humaines, qui seraient du coup des exemples, des bons ou des mauvais exemples. Ce qui reviendrait à dire que la paternité de Dieu serait à l'image des paternités humaines. Or, c'est l'inverse, en fait. Et le texte que nous avons lu, il renverse ce raisonnement et il affirme deux choses assez fortement. La première, c'est que la paternité est vraiment une métaphore recevable pour parler de Dieu. C'est la première chose que dit Paul. Et la deuxième, c'est que la paternité de Dieu, c'est le point de départ de tout discours sur la paternité. On ne peut pas parler de paternité humaine quelque part, sans parler de paternité de Dieu d'abord. Or, on fait souvent l'inverse. Alors, il nous faut découvrir comment Dieu est Père et éventuellement légitimer les paternités humaines en ce qu'elles sont ou non à l'image de la paternité de Dieu, puisque le texte dit « c'est du Père que toute paternité tire son nom ou que toute famille tire son nom ». C'est Dieu qui nous a donné la famille. C'est lui qui nous apprend à être et à vivre en famille. Dieu nous montre par son exemple comment nous comporter dans nos liens familiaux et sociaux. Et c'est vrai que tout au long de l'histoire biblique, on voit l'importance de la famille aux yeux de Dieu. On l'a déjà dit, je pense, hein, mais il y a énormément de lois qui sont attachées justement à cette notion de famille. Peut-être des textes qu'on lit moins aujourd'hui, hein, notamment dans le Lévitique, mais quand même, il y a énormément de choses qui sont attachées à l'idée de famille, ne serait-ce que dans les 10 commandements. Hein. Qu'il y ait un commandement qui parle vraiment des liens et des relations familiales, « Honore ton père et ta mère », c'est d'ailleurs le seul assorti d'une promesse, c'est peut-être pas anodin non plus. On vit tout au long de l'année, plus ou moins selon comment on a vécu en famille, hein, des moments où on se retrouve en famille plus élargie. Alors ça ne va pas tarder à arriver, hein, puisqu'en général, c'est autour de Noël qu'on se retrouve de manière un peu plus élargie. Et c'est souvent ces moments-là qui nous font prendre conscience que nous avons besoin, dans le domaine de la famille aussi, de la prière et de la grâce de Dieu. Je pense que hier, hein, notamment avec les ateliers qu'on a faits, les discussions qu'on a eues sur le couple, sur la famille, sur la communication dans le couple et d'autres choses. C'était aussi un lieu pour prendre conscience à quel point on a besoin de la grâce et de l'amour de Dieu pour arriver à vivre en famille d'une manière qui lui plaise, qui lui corresponde. Aimer l'autre pour ce qu'il est, on ne va pas se mentir, c'est difficile. Surtout quand il est tellement différent de moi que je ne le comprends pas toujours. Et pour ce qui est de nos familles autres, parce qu'on pourrait dire notre époux, notre épouse, on l'a choisi, mais nos frères et sœurs, par exemple, on ne les a pas choisis. Hein. Nos oncles et tantes non plus. On entend souvent dire ça, on ne choisit pas sa famille. Alors voilà, c'est une problématique, hein, mais en même temps, Dieu nous appelle à sanctifier nos familles et à honorer son nom dans nos familles. Le Saint-Esprit peut nous venir en aide en nous fortifiant notre être intérieur, hein, dit le texte, et en nous tournant finalement vers l'amour du Christ, parce que c'est quand on puise dans cet amour du Christ qu'on va comprendre de quelle façon on peut nous aussi aimer les autres. Cela nous redonne des forces et nous rend aptes à aimer, à être patient, à être joyeux, à être bon. Bref, ça va nous aider à développer le fruit de l'esprit, hein, dont l'apôtre parle dans l'Épître aux Galates. L'Évangile va évidemment plus loin que ça, puisqu'il fait sauter les frontières de la famille nucléaire et du clan pour nous parler d'une famille beaucoup plus large qui est la famille de Dieu. Et c'est vrai que quand on célèbre le culte, hein, on ne prend pas toujours conscience de ce côté assez merveilleux de dire finalement, regardons-nous là les uns les autres, voilà la famille de Dieu, une portion en tout cas. Parfois, on vit ça d'une manière un peu plus tangible quand on célèbre la Sainte Cène, et encore, la plupart du temps, je trouve qu'on y fait peu attention. On est très différents autour de la table, on est très différents d'âge, de culture, d'arrière-plan, d'éducation. Et pourtant, on prend le même pain, on boit la même coupe, et on prie ensemble. Une anticipation du royaume au service duquel nous sommes appelés à nous engager. Alors voilà la famille de Dieu. Il suffit de regarder autour de nous. Et c'est réellement un mystère de voir comment Dieu construit son Église. Ce texte donc qui nous parle de la famille de Dieu nous dit aussi que cette famille ne peut pas être séparée. On ne peut pas séparer les membres des uns des autres. Et cela va au-delà de tout ce que l'on pourrait connaître. Il nous faut là aussi prendre conscience que nous ne sommes pas ce que l'on pourrait voir de nous de l'extérieur, en tout cas pas seulement. Là, ça touche à la question d'identité, hein, dont il faudrait aller plus en profondeur, on n'aura pas le temps ce matin, mais l'identité en Christ, c'est quand même un thème vraiment important à mon avis. L'identité d'enfant de Christ, d'enfant de Dieu, parce que ça n'est pas la couleur de notre peau qui dit qui nous sommes, ni notre nom, ni ce que nous avons hérité de nos ancêtres, même si ça dit des choses. Mais nous sommes beaucoup plus que cela, parce que l'Esprit de Dieu qui nous travaille va plus loin et plus profond que ça. Et il veut travailler l'intérieur de nous et le relier à d'autres qui sont de la même famille, qui sont appelés au même festin, et qui sont transformés de la même manière. Ainsi, c'est une façon de rappeler que les anciennes appartenances ne nous lient pas et ne nous enferment pas. Alors quand on a une famille où tout va bien, hein, on peut rester avec sa famille quand même. Mais quand on a eu des familles dysfonctionnelles, eh bien c'est important de se dire finalement, je ne suis pas liée par ça. Dieu m'appelle aussi au sein d'une famille dans laquelle il nous transforme ensemble à son image. Une famille qui est plus grande, évidemment, dans laquelle les étrangers ne sont plus des étrangers, mais peuvent devenir des frères et des sœurs. Alors ça, c'est l'aspect large, mais pour autant, notre responsabilité au sein de notre foyer demeure et se renforce même, puisque chaque foyer doit être aussi, et d'abord, le lieu où Dieu est glorifié. Je crois que ça va être difficile de glorifier Dieu en Église si au sein de nos propres familles, alors là c'est pas la famille élargie évidemment, hein, c'est notre propre foyer, notre maison, si au sein de notre maison, Dieu n'est pas glorifié. Alors, plus on est nombreux dans la maison et plus ça va peut-être être difficile. Hein. Mais voilà, je crois qu'il nous faut réentendre aussi cet appel-là à faire de nos foyers des lieux sanctifiés, des lieux où on apprend à aimer, où on apprend à pardonner, où on apprend à ressembler à Christ. C'est chacun pour soi-même qui doit faire ce chemin, mais aussi les parents qui doivent emmener leurs enfants dans ce cheminement. Et ensuite, ça va être une bénédiction pour l'Église. Et ensemble, on va pouvoir aussi continuer de progresser. Cette paternité est celle du Dieu qui est créateur, hein, puisqu'il nomme, il fait venir à l'existence. Et c'est une paternité qui est toute puissante. Évidemment, dans le bon sens du terme, hein, puisque c'est Dieu. Vous voyez l'intérêt de ne surtout pas commencer par les paternités humaines. Voilà, commençons par la paternité de Dieu qui crée, qui est tout puissant et qui est capable de travailler, de fortifier notre être intérieur par son esprit, qui veut nous enraciner dans l'amour par le Christ, qui va nous faire entrer dans la plénitude de Dieu. La paternité de Dieu, ça n'est pas pour lui de garder jalousement son rang, mais au contraire d'élever l'homme et de le rendre semblable à son image. Pas d'en faire un petit Dieu non plus, hein, mais de le rendre semblable à son image. Et je crois que là aussi, c'est important de le redire parce que on voit circuler parfois des choses sur Internet qui viennent à l'encontre de ça et qui peuvent nous heurter profondément. Je pense qu'il y en a plusieurs qui ont eu droit à visionner cette mini-vidéo de la... Alors, comment ça s'appelait ? La toute faiblesse ou je ne sais pas quoi. Enfin bref, au lieu de la toute puissance, le Dieu tout faible. Évidemment, ça n'est pas ce que nous croyons, ça n'est pas ce que nous proclamons. Et donc, souvenons-nous que Dieu est tout puissant et que c'est une bonne nouvelle, hein. Ça n'est pas pour nous écraser, mais pour nous amener à lui. Et l'Église est effectivement, justement, l'assemblée de ceux en qui la force et l'amour de Dieu sont déployés. Ce n'est pas un lieu où, même si on est faible, évidemment, sans Dieu, hein, mais ce n'est pas un lieu où on est appelé à rester faible. C'est un lieu où on est appelé à vaincre, à remporter des combats, parce qu'on s'appuie sur le Seigneur. La perspective globale, me semble-t-il, est ainsi d'affirmer que Dieu fait participer l'homme à sa propre gloire, et ça, c'est mystérieux. C'est un terme difficile, mais je crois que c'est quand même un terme majeur qu'on rencontre dans ce texte. Et cette gloire, finalement, c'est aussi l'idée d'un dépassement de nos limites humaines. Encore une fois, pas par nos propres forces, parce que Dieu le fait. Et ça pose la question assez sévère de nous demander si on croit cela. Pas juste avec nos têtes, mais si on croit que c'est possible. Est-ce qu'on croit vraiment que Dieu peut faire de nous, ben, comme dit le texte, bien au-delà de ce que nous pensons? Croyons-nous que Dieu peut nous donner d'aimer à la façon dont Dieu, dont lui aime? Croyons-nous que Dieu peut chambouler notre petit groupe, qu'il peut chambouler notre Église pour nous réveiller, pour nous faire croître ensemble? Et après, si on arrive à répondre oui à tout ça, on le croit, c'est bien, mais est-ce qu'on en a envie? C'est la deuxième question, hein. En avons-nous envie? Croyons-nous que Dieu peut nous donner la force de vivre dans ce monde? Et c'est vrai que cette perspective d'Éphésiens, eh bien, elle bat en brèche le sentiment de défaite que les gens autour de nous ont et qui parfois nous gagnent quand même, hein. Or, justement, on ne doit pas vivre dans un sentiment de défaite parce qu'on a un Dieu tout-puissant et souverain. Et que la foi, eh bien, c'est justement cette attitude quand même un peu étrange, il faut bien le dire, hein, qui fait le pari de compter sur Dieu qu'elle ne voit pas. Voilà. La foi nous permet de nous appuyer sur le Père et de nous attendre à lui et de lui faire confiance pour ce qui arrive et que nous ne comprenons pas. Et c'est une attitude que nous avons souvent du mal à garder et à entretenir parce qu'autour de nous, ben, ça va à l'encontre de ça, mais aussi parce que parfois nous sommes tellement structurés dans nos institutions que nous avons du mal à attendre quelque chose de Dieu et à attendre de le voir agir. Alors, c'est une bonne chose d'être organisé quand même, mais c'est vrai que parfois on se dit, bon, est-ce qu'on vit assez par la foi? Il ne s'agit pas d'arrêter d'être responsable de tout et d'attendre la bouche ouverte que le pain nous tombe dessus, hein. Mais c'est vrai que parfois on est tellement organisé que finalement on n'a plus besoin de l'intervention de Dieu. Enfin, en tout cas, on ne lui laisse pas la place. On aimerait le voir à l'œuvre et en même temps, ben, on prend tellement tout en main qu'il n'y a plus la place. Alors Dieu peut agir même si on ne lui laisse pas la place. Mais quand même, Je crois que des fois, il aimerait qu'on lui laisse un peu plus de place, un peu plus d'espace. Et ce qui nous est dit dans ce texte est tout à fait extraordinaire. L'amour de Dieu veut travailler en nous. Il veut nous transformer de l'intérieur. Il veut faire de nous des hommes nouveaux, des femmes nouvelles, qui n'ont plus peur d'être un petit groupe dépassé, mais qui, au contraire, sont conscients de l'appel qui est le leur. Dieu nous donne une identité de relation, d'ouverture, de rencontre. Il veut nous rendre aussi attentifs à ceux qui, autour de nous, ont découvert comme nous cet amour. Mais aussi à tous ceux qui ont besoin de le découvrir, qui ont besoin qu'on le partage avec eux, qu'on le leur dise. Dieu veut nous libérer d'une attitude à la fois de méfiance, mais aussi d'arrogance. Il veut nous transformer de fond en comble. Et cet appel à nouer une relation intérieure et profonde avec le Christ s'accompagne d'une promesse qui non seulement répond aux attentes des lecteurs de l'Épître, mais qui dépasse cette attente. C'est ce fameux verset de la fin, hein, « À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander et imaginer, à lui soit la gloire. » C'est la promesse d'un amour divin qui cherche à s'enraciner au plus profond de l'humain pour transformer son regard, pour l'envoyer aussi vers de nouveaux horizons ou pour encore donner une autre dimension à son existence. Là aussi, l'appel dépend de chacun quand même, hein ? On n'est pas tous appelés à tout, mais quand même. En somme, pour Paul, la foi implique une transformation intérieure qui suscite un regard nouveau sur l'extérieur, sur le monde, sur les autres. Un regard déterminé par cet amour et qui parvient à discerner, eh bien, derrière les apparences, une autre dimension qui permet de faire l'expérience de la plénitude de Dieu qui est révélée en Christ et transmise à celui ou celle qui place sa confiance en lui et qui va le laisser habiter dans son cœur. « Demeurez en moi, dit le Christ. Hein. » De là se présentent de nouveaux horizons et la vie prend une nouvelle dimension. Nous découvrons que nous valons infiniment plus que l'image que nous donnons de nous-mêmes ou que les autres disent que nous sommes. Nous valons aussi plus que ce que nous produisons. C'est important de le redire dans une société où on a une valeur que si on est rentable quelque part. Hein. Bankable. Voilà. Dieu ne s'arrête pas à ce genre de choses. Est-ce qu'on est rentable ou pas ? En fait, on est rentable si on est attaché à Christ, et c'est lui qui va être rentable pour nous, quelque part. Hein ? Par là même, nous découvrons aussi que ceux et celles qui nous entourent valent aussi beaucoup plus que ce qu'ils présentent et qu'ils produisent. Et nous découvrons, au-delà des situations de souffrance auxquelles nous pouvons être confrontés, une promesse de vie. Parce que par la puissance de Dieu qui agit en nous, eh bien Dieu peut faire au-delà de ce que nous pouvons demander et imaginer. Et cette transformation intérieure, elle implique évidemment le témoignage, au sein de notre propre maison d'abord, mais aussi autour de nous, là où Dieu nous place. Et là aussi, ça va dépendre de qui nous sommes. Mais ce que nous recevons dans la foi est appelé à rayonner pour que le royaume de Dieu progresse. Il s'agit d'un engagement concret, finalement, au service de l'Évangile. Et je crois que là aussi, il nous faut le rappeler, parce que parfois, on a tendance à s'arrêter au salut, hein, à se dire, bon, bah, c'est bon, on croit, on est sauvé, on est tranquille, et puis on s'arrête. Alors, je crois vraiment que l'appel au salut est le démarrage de la foi chrétienne, pas l'objectif. Après, il y a tellement d'autres appels. Tellement d'autres choses. C'est dommage de s'en tenir là. On peut appeler à l'intercession, déjà. Une première manière d'agir. Ça paraît parfois pas grand-chose. On pourrait croire que c'est une façon de se déresponsabiliser, mais au contraire, Dieu nous appelle à prier. Dieu nous appelle à intercéder les uns pour les autres. À être attentifs à ceux qui nous entourent, aux détresses, aux souffrances. Et la preuve, c'est que ce texte est une intercession quand même. Hein. Paul intercède pour nous. pour ses lecteurs. Et donc prier, c'est déjà agir. Je crois d'ailleurs que si on ne commence pas par là, c'est peut-être pas la peine de faire le point 2. Hein. Et puis ensuite, nous sommes appelés à témoigner, à proclamer à celles et ceux qui se cherchent que Dieu les a déjà trouvés, lui, et qu'il veut faire sa demeure chez eux. C'est par la foi donc que nous recevons le salut de Dieu en Jésus-Christ et nous pouvons accueillir Christ en nous afin qu'il habite réellement dans nos cœurs. Là encore, c'est par le Saint-Esprit que Jésus vit en nous et nous devrions toujours plus être en demande de sa présence pour un jour dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et là aussi, toute l'épître aux Éphésiens nous rappelle que même là, nous n'y sommes pour rien. Même la foi, nous n'y sommes pour rien. C'est par la grâce. Et ça veut dire que nous avons quand même comme effort à faire de faire taire notre volonté propre pour faire passer celle de Dieu d'abord, comme l'a fait Jésus hein, avec son Père. C'est peut-être le plus difficile finalement, faire taire notre égoïsme, notre orgueil, notre envie d'avoir ce que l'on n'a pas, ou que sais-je encore, notre paresse. Laisser le Christ habiter en nous, c'est le laisser avoir sa place dans notre quotidien, y assurer sa présence au cœur de nos vies, de nos familles, de nos communautés, les marquer de son accompagnement, y interférer, déranger parfois, corriger. Finalement, le laisser s'en mêler, quoi. Le laisser nous interpeller, peut-être plus profondément, sur notre manière de vivre ensemble. Et ça n'est pas évident. Laisser le Christ habiter en nous, c'est lui faire pleinement confiance. Et puis être enraciné et fondé dans l'amour ne nous conduit pas en priorité à nous attaquer à ceux qui nous agressent, à chercher à mettre en cause les idées, les opinions, les convictions qui sont contre nous, mais avant tout, à cause de notre enracinement, à trouver dans l'amour de Dieu ce qui fonde nos attitudes et nos paroles. Et là aussi, ce n'est pas très naturel quand même. Voilà comment Dieu renforce notre être intérieur aussi. Donner de la largeur, de la longueur, de la hauteur et de la profondeur à cet amour du Christ que nous devons proclamer et vivre. Alors évidemment, ça nous oriente à contre-courant de ce qui se pratique dans le monde, c'est une évidence. Laisser le Christ habiter en nous et être enraciné, fondé dans l'amour, c'est entrer dans une autre dynamique que celle qui conduit à construire des murs pour nous barricader, nous protéger, nous renfermer sur nous-mêmes pour que rien ne puisse nous atteindre. Voilà, c'est l'idée des racines et des ailes en même temps. Hein. Les racines qu'on trouve en Dieu, mais aussi les ailes que nous sommes appelés à déployer pour aller proclamer cette bonne nouvelle. Être enraciné et fondé dans l'amour, ça ne peut pas s'inventer non plus. Ça ne peut que s'imiter en regardant le Christ. Il est celui qui a tout fait par amour. Jésus a donné sa vie pour nous sauver de la mort et du péché. Il l'a fait par amour. Il a renoncé à la gloire céleste pour un temps. Il a revêtu notre imperfection. Il a renoncé aussi à la gloire terrestre en mourant sur une croix. Par là, il a montré son amour pour le Père d'abord, puisqu'il a accompli parfaitement et pleinement sa volonté. Mais il a aussi montré son amour pour nous. Comme il est écrit en Jean 15, verset 13, « Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Voilà ce que Jésus a fait pour nous, pour chacun d'entre nous. Alors quand nous avons la foi, que nous recevons l'amour de Dieu, alors nous pouvons comprendre un peu mieux toutes les dimensions de cet amour du Christ pour nous. Cet amour vertigineux, qui nous dépasse complètement et qui là aussi est le comble du mystère. Cette connaissance de l'amour de Jésus pour les siens nous aide à comprendre comment nous aussi, à son image, nous devons aimer à la fois Dieu, et Dieu d'abord, mais aussi notre prochain et nous-mêmes. Pas toujours le plus facile de s'aimer soi, hein. Mais le but, c'est d'être rempli pleinement de Dieu dans tous les domaines de notre vie, c'est-à-dire rempli du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aucun domaine de notre existence ne devrait se trouver sans Dieu. Et il est important de nous rappeler l'importance de prier, d'être en communion, d'écouter sa volonté pour nous, mais aussi de demander, puisque Dieu peut au-delà de ce que nous demandons. Et la plupart du temps, nous demandons peu, ou nous demandons mal, ou nous n'osons pas demander certaines choses, alors que Dieu nous appelle et nous encourage à cela. Il attend de nous une telle intimité avec lui que nous soyons capables de demander toutes choses et de pouvoir entendre et comprendre sa volonté pour nous. De la même manière qu'on observe ça dans les couples qui ont déjà un peu de bouteille, hein, les couples qui ont plusieurs années de mariage derrière eux, parfois pas besoin du tout de parler pour que ces gens se comprennent. À observer, c'est mystérieux. Mais c'est un peu ça finalement, l'intimité avec Dieu. Alors n'ayons pas peur de demander à Dieu dans la prière la connaissance, la sagesse, la foi, l'amour et tout le reste. Demandons-le d'abord pour nous-mêmes, ensuite pour notre foyer, notre maison, ceux qui font partie de ce cocon qu'on appelle le chez-nous, mais aussi pour nos proches et encore pour l'Église, dans une prière communautaire. Et n'oublions pas que, comme Paul nous le rappelle, l'Église manifeste la gloire de Dieu. Elle doit donc refléter cette gloire à nos contemporains et rayonner de la puissance et de l'amour de Dieu. Et là, c'est une mise en garde en tant que communauté à ne pas altérer cette image de Dieu par nos insuffisances humaines. Et encore une fois, la seule solution, c'est la présence de Christ en nous qui nous permet de manifester cette gloire. Ce texte nous rappelle que la meilleure résolution que nous pourrions avoir finalement en tant que chrétiens, que famille, que peuple de Dieu, c'est de prier davantage, d'oser demander à Dieu ce dont nous avons besoin, parce qu'il nous appelle à le faire, mais aussi d'apprendre à aimer pleinement, à nous laisser aimer par Dieu nous-mêmes et à apprendre à l'aimer lui, à nous aimer et à aimer les autres. Voilà une décision que nous pouvons prendre chacun personnellement, mais aussi en tant que parents pour notre foyer et encore communautairement en tant qu'Église. Alors nous serons ce corps de Christ, unis, mais aussi chacun pour sa part, selon son appel. Que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, nous soit en aide avec cette décision et ce cheminement auquel il nous appelle. Amen. Nous pouvons chanter ensemble, Père, unis-nous tous, comme une prière. Deux fois peut-être, parce qu'il est vraiment tout petit.